Tout de suite sur Art District, c'est l'émission Graines d'avenir. Julie Boucher vous parle d'économie sociale et solidaire et vous fait découvrir des initiatives positives qui présagent déjà du monde de demain. Bonjour à tous, c'est Julie Boucher et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Graines d'avenir. Du 22 au 24 septembre dernier, avait lieu dans la capitale le premier salon Cher Paris. Derrière ce terme anglais, c'est bien la notion de partage, concept clé de l'économie collaborative qui est en jeu. Pendant 3 jours, Fab Lab, plateforme peer-to-peer qui permettent de tout prêter ou acheter, acteurs du financement participatif et start-up innovantes se sont présentés au grand public. Pendant cette émission, je vous propose de rencontrer certains participants qui pourraient devenir incontournables à l'avenir. Alors, restez à l'écoute et suivez le guide. Pour commencer, je me dirige vers ce grand camping-car qui promet de beaux week-ends en perspective. Voyons tout de suite quelle est la particularité de Wikicampers.
Je m'appelle Fanny, je suis cofondatrice avec Marion ici présente de Wikicampers. Wikicampers, c'est une plateforme de location de camping-car entre particuliers.
Ça fait combien de temps que vous existez et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ?
On vient de fêter nos 5 ans. On a fêté nos 5 ans au mois de juillet. Aujourd'hui, on a 2000 propriétaires de vannes et de camping-cars qui louent leurs véhicules via nos services.
Combien de personnes utilisent vos services d'après vous ?
Je pense que en 2017, 10 000 personnes seront parties en vacances avec et grâce à Wikicampers.
Généralement, qu'est-ce que les gens préfèrent ? Qu'est-ce qui les attire quand ils se disent « Tiens, on va partir avec Wikicampers et prendre un camping-car »
Avant tout, déjà, le voyage nomade qui les attire. Wikicampers, on est là pour proposer des véhicules en location, mais aussi et surtout pour conseiller sur le voyage nomade. Donc on va dans un premier temps vous proposer le véhicule adapté à vos besoins, mais aussi et surtout on va vous donner des astuces, des bons plans, des conseils pour voyager après en camping-car, donc des solutions de stationnement, des idées de destination, des roadbooks pour visiter une région de France ou d'Europe. L'idée, c'est que voilà, Wikicampers, c'est un concept de voyage en camping-car.
Généralement, les gens partent combien de temps ?
On constate en moyenne que c'est une semaine. Voilà, donc les gens partent pendant les vacances scolaires. On a une très très forte demande sur les vacances de juillet et août, mais aussi vacances de Pâques, vacances de la Toussaint. Et puis on essaye de développer un petit peu plus le voyage en camping-car en hiver, parce que c'est possible de partir au ski en camping-car ou en hiver en camping-car, parce que les véhicules sont équipés de chauffage, on peut prendre une douche chaude, on peut manger chaud même en hiver quand il fait froid.
Les grands week-ends, c'est aussi une option, j'imagine.
Tout à fait, voilà, les ponts du mois de mai, les grands week-ends sont idéales pour partir se dépayser en camping-car. Il fait beau le vendredi midi, le vendredi après-midi on réserve son camping-car sur Wikicampers et on peut partir comme ça au pied levé en fonction du soleil.
Vous avez dit que ça fait 5 ans que c'est lancé, quel recul vous avez aujourd'hui ? Comment vous le voyez se développer, ce site de Wikicampers et ce service ?
Aujourd'hui, on est très satisfait de nos 5 premières années. On peut voir qu'il y a énormément de demandes, que le camping-car fait rêver beaucoup de personnes, mais qu'il y en a plein qui n'osent pas encore franchir le cap et louer un véhicule parce que il y a certains freins, il y a certaines peurs. Donc on a encore énormément de travail pour essayer de démocratiser le voyage en camping-car, de montrer que c'est accessible à tout le monde, que ce soit des des familles, des retraités, mais aussi des jeunes qui peuvent partir pour voilà, faire un enterrement de vie de garçon, pour aller à un mariage, pour aller faire du sport ou sur un festival de musique. En fait, il y a plein d'occasions pour pouvoir louer un camping-car. Donc, on a un potentiel en fait de développement assez conséquent pour voilà, pour répondre à la demande et aux besoins des gens qui cherchent des solutions de vacances originales. Et
comment est-ce que ça se passe pour les personnes qui seraient intéressées et qui se disent tiens, moi ça me dit bien vraiment?
C'est très simple, il suffit de se rendre sur le site wikicampers.fr. Soit on se débrouille tout seul comme un grand pour trouver un camping-car en location à côté de chez soi, soit on sollicite la Wikiteam pour pouvoir avoir un accompagnement et des conseils pour trouver le véhicule adapté à ses besoins. Donc c'est vrai qu'en fonction du nombre de passagers ou du type de voyage, on va conseiller un véhicule plutôt qu'un autre.
Comment se passent les échanges d'argent? Parce que j'imagine que tout cela n'est pas gratuit quand même.
Alors en fait, nous on est là pour sécuriser les transactions. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez trouvé le véhicule qui vous convient, vous allez pouvoir être en contact avec le propriétaire. Et lorsque vous vous êtes mis d'accord sur la location, c'est à Wikicampers que vous allez régler la réservation de camping-car. On est là pour sécuriser la transaction, pour gérer tout ce qui est assurance, contrat de location, tout l'aspect administratif, c'est Wikicampers qui s'en occupe. Ce qui fait qu'entre le propriétaire et le locataire, il n'y a pas de souci d'argent, il n'y a pas de question d'administratif, tout est réglé en amont via Wikicampers. Donc après, quand vous avez réservé un camping-car sur Wikicampers, il suffit de vous rendre chez le propriétaire qui va vous expliquer comment fonctionne son véhicule, qui va vous montrer comment il se conduit et qui va vous remettre les clés.
J'ai envie de partir, là, ça m'a donné super envie. Et vous, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer Wikicampers?
C'est avant tout quand même la passion du voyage nomade. Ça, c'est sûr qu'avec Marion, mon associé, on a voyagé en camping-car quand on était plus jeune. Et c'est aussi des voyages qui nous ont ouvert aussi à ce concept de la location location de camping-car. Pour ma part, je suis partie en Nouvelle-Zélande et j'ai vu que le camping-car, c'était le moyen idéal pour visiter l'île, pour sortir des sentiers battus. Et de retour en France, on s'est dit avec Marion que le camping-car, c'est sûr un super moyen de voyage, mais que ça coûtait cher. Et plutôt que d'en acheter un, autant louer ceux qui existent déjà, ceux qui appartiennent à des particuliers qui, eux non plus, l'utilisent pas toute l'année.
Alors, c'est vrai que vous me disiez que c'était cher quand on l'achète. Là, combien ça revient pour quelqu'un qui voudrait louer, je sais pas, pour 4 personnes, une semaine? Est-ce que vous avez l'idée du prix?
Je dirais qu'il faut compter en moyenne 800 euros pour avoir un véhicule comme celui que vous avez derrière vous. Donc un véhicule qui va proposer 4 couchages, qui va proposer voilà, le confort de la douche, des toilettes, de la cuisine et qui va être équipé pour emmener les vélos, les planches de surf, etc.
Après, est-ce qu'il y a un prix plancher pour ceux qui sont peut-être un peu plus routes?
Voilà, ceux qui ont un budget un petit peu plus limité, qui vont se contenter d'un fourgon aménagé ou d'un véhicule un peu plus ancien, puisque voilà, on a tout type de véhicule. On peut partir une semaine pour 450 euros.
Eh ben, merci à vous, c'est parti.
Avec plaisir.
Je me rapproche maintenant du corner Ulule, plateforme de crowdfunding, de financement participatif, où de nombreuses startups s'inscrivent pour faire financer leurs projets. J'ai réussi à réunir 3 porteurs de projets, Amélie Pocelier pour José, Titouan Goinvec de Péligourmet et Jérémy Zaccherini de 1026. Alors ensemble, ils vont nous présenter un peu ce qu'ils font et j'ai envie de donner la parole tout d'abord à Amélie Pocelier. Bonjour.
Bonjour. Alors, on a créé la marque José. Donc en fait, on fait produire des pulls en alpaga en Bolivie. On travaille en collaboration avec des artisans qui sont en fait l'essence de notre projet, puisque ce qu'on cherche à mettre en avant, c'est leur savoir-faire. Donc on a développé notre marque en les poussant en fait à produire de leur côté. Et ça nous permet justement de valoriser une culture. On parle beaucoup de la Bolivie, c'est une marque qui tourne autour du voyage. Et on produit en alpaga, donc l'alpaga c'est un petit lama en fait qui vit sur les plateaux andins. Et du coup, ça nous permet de développer des produits qui soient durables et qui soient beaux et qui retracent en fait une histoire, puisqu'il y a des motifs incas qui sont représentés sur le pull, qui sont en fait toute une culture ancestrale.
Ça fait combien de temps que vous êtes lancé et quelle idée vous avez pour l'avenir ?
Alors, ça fait 8 mois qu'on est sur le projet et on a lancé notre campagne de précommande lundi sur Ulule. On est très contents parce qu'on avait un objectif de vendre 100 pulls et aujourd'hui, on en a déjà vendu 175 alors que ça fait que 5 jours. Donc, c'est plutôt positif.
Et il n'y a pas que 175 amis à vous ?
Non, on commence. En fait, ce qu'il y a, c'est que vu que ça fait 8 mois qu'on est sur le projet, on a vraiment créé une communauté autour de notre marque. Ça nous a permis vraiment d'emmener les gens en Bolivie avec nous, de leur expliquer en fait nos problématiques au quotidien, comment est-ce qu'on a construit la marque, pourquoi est-ce qu'on l'a construite de cette manière. On est très transparent sur nos coûts, sur la manière avec laquelle on fonctionne. Et voilà, donc du coup les gens nous ont accompagnés et sur Facebook, sur Instagram, c'est vrai qu'on a un univers qui plaît vachement et c'est vrai que le voyage c'est un thème qui attise vraiment les gens.
Amélie, vous avez parlé de communauté et alors du coup j'ai envie de me tourner vers Titouan Goenweg de Péligourmet. La communauté, pour vous, ça aussi c'était une notion clé?
Oui, c'est une notion clé Péligourmet. Parce que nous, on fait du covoiturage de produits régionaux, donc on a créé le premier circuit court collaboratif. Et l'idée, c'est que chacun profite de ses trajets en région pour rapporter les produits des petits producteurs artisanaux en ville. Donc concrètement, comment ça marche? On a Pierre de la communauté qui va dire « Salut, je pars en week-end en Touraine, je connais un petit producteur de Sainte-Maure-de-Touraine, je vais aller en acheter pour moi, qui veut ?» Et les gens vont précommander, payer en ligne, et Pierre, du coup, va acheter les fromages commandés, les rapporter, les déposer en point relais.
Alors, où est-ce que c'est implanté pour le moment? Est-ce qu'on peut trouver ça partout? Est-ce que c'est pour les particuliers, pour les entreprises? Comment est-ce que vous fonctionnez?
Alors, on a un réseau de points relais, principalement en région parisienne, à Lille et à Toulouse. Les gens peuvent aussi choisir de faire des remises en main propres, pas de passer par les points relais. Et sinon, après, on crée des communautés privées pour les entreprises, pour recréer du lien social entre les salariés, pour que les collaborateurs se rapportent entre eux des bons produits régionaux.
J'ai envie que vous me racontiez comment vous avez eu envie de monter cette entreprise.
Alors, Péligourmet, c'est né de plusieurs constats. Le premier, c'est qu'on avait des très bons producteurs qui faisaient des super produits, qui étaient petits et qui étaient respectueux de l'environnement, mais qui n'arrivaient pas à vivre de leur activité à côté parce qu'ils n'avaient pas accès au réseau de distribution. Tout simplement parce que sur la micro-distribution des produits alimentaires, 30% du prix de vente, c'est le transport. Et d'autre côté, on avait des urbains, dont nous, qui n'avaient pas accès aux bons produits régionaux parce qu'ils étaient soit introuvables, soit trop chers en ville par rapport à ce que c'était. Et du coup, on a eu cette idée d'utiliser les trajets existants pour apporter une solution pour les producteurs et faire venir en ville les bons produits.
Mais est-ce qu'auparavant, vous faisiez déjà ça, d'aller ramener du fromage pour vos amis ?
En fait, on le faisait déjà. En fait, on demandait à nos grands-parents de rapporter des galettes de pommes de terre qu'on congelait. Moi, je demandais à des copains d'école de me rapporter du Saint-Nectaire d'Auvergne. On stockait ça et oui, c'est quelque chose qu'on faisait déjà avec des amis.
Alors maintenant, je me tourne vers Jérémy Zaccherini. Vous, avec 1026, on est dans un autre domaine. On est dans des objets. Et là, on est sur des objets, j'allais dire, du quotidien. On n'est pas sur des objets connectés.
Alors exactement. Nous, avec 1026, l'objectif, c'est de créer des produits qui sont utiles, qui sont simples, qui sont responsables. Donc contrairement à notre génération d'entrepreneurs qui va souvent vers des projets qui sont hyper technologiques, avec des algorithmes et tout ça, nous, on a fait un pas en arrière. Notre premier produit, c'est une gourde. Donc c'est une gourde qui est 100% saine, il n'y a pas de matière chimique dedans, il n'y a pas de BPA, il n'y a pas de transfert de matière vers l'eau. Cette gourde, elle a un concept simple, c'est qu'elle aide les gens à boire suffisamment d'eau en une journée avec un moyen mnémotechnique qui est facile à retenir, il suffit de la remplir et de la boire 3 fois par jour. Et c'est pour ça qu'on y a mis les horaires de la journée dessus. Le second projet qu'on a, qui est actuellement en financement sur Ulule, c'est un projet qui vient faire face un peu aux applications de productivité et to-do list qui existent sur vos smartphones, sur vos ordinateurs. Encore une fois, on fait un pas en arrière et on a créé un notebook, c'est un carnet papier sur lequel on a mis un modèle simple, c'est-à-dire qu'une page, c'est un jour. Dessus, la première partie, c'est 5 objectifs à choisir. Donc l'idée, c'est de ne pas mettre trop d'objectifs afin de les atteindre tous les jours. Il y a un espace de création, d'inspiration pour y mettre vos objectifs à venir ou des notes que vous voulez mettre pendant la journée. On a une troisième partie qui est des pictogrammes qui vous permettent de suivre vos bonnes habitudes. Donc typiquement bien manger, boire suffisamment d'eau, ce qui rejoint notre gourde, se développer personnellement, faire du sport et prendre des moments pour se relaxer, donc sans technologie encore une fois. Et la dernière partie, elle permet de mettre une note à sa journée, donc sur 5. Et enfin un commentaire positif. L'idée c'est de travailler la gratitude et de pas se mettre toujours des bâtons dans les roues et de dire que parfois on fait les choses correctement.
Jérémy, comment est-ce que vous avez eu l'idée, l'envie d'aller dans cette direction ?
Alors à la base, mon associé et moi, on avait créé une application qui aidait les gens à mieux
vivre. Très connectée.
Et cette application, le cœur, c'était d'envoyer des notifications aux gens au cours de la journée. Donc typiquement, est-ce que vous avez bu assez d'eau ? Est-ce que vous avez fait du sport ? On a pas mal de gens qui sont inscrits sur l'application à la base. Donc il y avait un intérêt pour ce genre de produit-là. On n'avait pas de rétention, c'est-à-dire que les gens arrêtaient d'utiliser l'application très rapidement. Et donc en fait, on s'est dit, les gens ils boivent pas avec une application smartphone, ils boivent avec une gourde. Donc on a fait 10 pas en arrière et on s'est dit, on va pas faire d'application digitale ou de site web, on va créer des produits physiques qui sont utiles et simples pour les utilisateurs.
Alors vous êtes tous les trois aux alentours du corner Ulule. Jérémy, vous, qu'est-ce que vous faites en ce moment avec Ulule ?
Alors sur Ulule, on est en train de faire financer notre deuxième produit, qui est le planeur. Ulule, c'est une grande chance parce qu'avec mon associé, on n'avait pas d'argent, on voulait se lancer. En fait, ça permet aux porteurs de projets, d'une part, de lever de l'argent en vendant leurs produits avant même qu'ils existent finalement. Et une deuxième part, ça permet surtout de créer une communauté autour de votre produit, ce qui est hyper important. Quand on se lance, c'est très difficile de faire connaître son projet. Sur Ulule, l'avantage, c'est que tous les gens qui vous soutiennent, qui précommandent vos produits, ils rejoignent votre communauté parce qu'ils achètent un produit qui n'existe pas, donc ils vous font confiance. Et ça, c'est vraiment top.
Je sais que vous aussi, Titouan, vous êtes passé par Ulule.
Alors oui, nous, on a fini en décembre de l'année dernière une campagne de crowdfunding qui nous a permis de financer le développement du réseau de points relais en région parisienne. L'objectif, c'était de fournir les points relais en frigo et aussi avec cet enjeu de créer une communauté autour du projet et de communiquer.
Est-ce que vous aussi, Amélie, ça vous a permis de faire connaître davantage la marque José et les pulls ?
Alors nous, c'est encore assez récent parce que ça fait que 5 jours qu'on est sur Ulule. Mais étant donné que le projet marche bien, on est déjà sur les premières pages. Donc c'est vrai que la communauté commence à prendre connaissance du produit. Donc on espère que par la suite, ça va nous faire grandir. Mais déjà avec ce type d'occasion, avec ce salon et la présence avec Ulule, je pense que ça va vraiment nous aider et booster notre communauté.
Amélie, vous derrière, en plus, il y a des producteurs qui sont en Bolivie, donc forcément, j'imagine que vous avez toujours ça à l'esprit. Est-ce que votre idée, si ça marche, c'est qu'il y ait beaucoup plus de pulls ou quelle est votre vision ?
Alors en fait, José, c'est une marque qui tourne autour de voyages, comme je disais tout à l'heure. Ce qu'il y a, c'est que nous, en fait, on veut partir dans différentes destinations, différents pays, récupérer différentes matières et différents artisans qu'on souhaite valoriser. Donc notre marque, elle tourne vraiment autour de l'artisanat et la valorisation de différents savoir-faire à travers la planète.
Donc si je suis, il y aura peut-être... il y a les pulls de Bolivie et puis il y aura...
Demain, on partira peut-être chercher de la jute ou du lin ou de la soie dans un autre pays avec lequel on développera des collections avec des artisans locaux.
Alors je voudrais vous demander, tous les trois, vous êtes jeunes, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui donne envie de se lancer de ce côté-là, de l'économie sociale et solidaire ? C'est pas forcément... couru d'avance, tout ce que vous faites, c'est génial, mais il faut y croire, et puis il faut se donner, Jérémy.
Alors, on est conscient qu'on va pas changer le monde. Le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut tous aider un petit peu. Nous, notre gourde, elle a aussi pour objectif de réduire la consommation de plastique à usage unique. C'est un tout petit pas. Aujourd'hui, on bosse avec des entreprises qui remplacent l'utilisation de 5 gobelets par employé par jour par une gourde. Alors c'est un petit geste, mais c'est important. Nous, ça nous tient à cœur. Et si on peut aider, on continuera de le faire.
Et vous, Titouan, qu'est-ce qui vous motive au jour le jour quand vous vous levez pour vous remettre au boulot ?
Alors nous, c'est trouver un sens à ce qu'on fait. C'est bosser dur pour un projet qui nous tient à cœur. C'est goûter de nouveaux produits, non ça j'ai...
Ça compte, moi j'aimerais bien aussi.
Nous on avait vraiment envie, on est une entreprise ESS, l'objectif c'est de permettre aux producteurs de vendre plus en vente directe, c'est-à-dire à leur prix, sans temps de travail supplémentaire ni coût de transport. Ça c'est vraiment l'objectif, et du coup ce qui nous motive au quotidien, c'est d'augmenter notre impact, donc de développer Péligourmet pour qu'il y ait plus de produits vendus par ce biais-là.
Tout à l'heure, on disait qu'il y avait des points relais que dans certaines régions, mais c'est vrai qu'à la vente qui peut se faire de la main, enfin où l'échange peut se faire de la main à la main entre les gens, et à ce moment-là, il n'y a pas besoin des points relais.
Exactement.
Comment vous voyez l'avenir ? Ce serait généralisé dans toute la France, c'est ça l'idée ?
Oui, c'est ça l'idée. L'objectif de Péligourmet, c'est de trouver des financements déjà aussi pour accompagner la croissance et de se développer dans l'ensemble des grandes villes françaises au début. Puis après de trouver un système pour essayer de se développer dans les plus petites villes pour augmenter l'impact, et après d'essayer de toucher les communautés françaises à l'étranger qui ont un peu de mal à se fournir en bons produits régionaux.
Merci à tous les trois, Amélie Posselier de José, Titouan Gohan avec de Péligourmet et Jérémy Zaccherini de 1026. Bon salon à vous. Je passe à côté du petit baby-foot et j'arrive sur le stand de We Are Makers. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ?
Alors, on est une plateforme collaborative où on publie des tutoriels de sources diverses et variées. Aussi bien changer une porte de Twingo que faire des petits glaçons avec des petites fleurs dedans, en passant par faire des robots,
des poulaillers,
des recettes de cuisine, une porte de poulailler qui se ferme automatiquement. Et on aime à croire qu'on a quand même un panel de gens qui sont très divers, très variés, et surtout on est franco-français. Tout est en français sur la plateforme. Alors moi je me souviens de mon grand-père qui avait plein d'expériences, qui était très curieux, très bricoleur, très, très plein de choses. Quand je lui ai montré internet, je lui ai montré les trucs croustillants et il m'a dit c'est tout en anglais, je capte rien, c'est mort, c'est pas pour moi, quoi. On a fait cette plateforme-là il y a 2 ans. Là, j'ai pas les chiffres en tête, c'est plutôt ma collègue qui scrute les numéros. Moi, je suis le développeur de la plateforme. Et on a de plus en plus de gens qui viennent mettre des choses très très variées. C'est plutôt intéressant. On a des concours qui se passent, on anime des ateliers avec des gens qui postent un tutoriel et qui disent moi j'aimerais bien faire un atelier un dimanche, j'accueille les gens, on fait ça, ou on va à la recyclerie, on fait des trucs. Et c'est un petit peu le lien qu'on a pu avec les générations qui sont un peu en déperdition, leur savoir qui se perd, etc. etc. Avant, les gens allaient au café pour discuter de tout et de rien. Il y avait un échange horizontal sur tout plein d'informations. Et maintenant, ça n'existe plus. Donc, il faut qu'on recrée des abreuvoirs au milieu de la savane où tous les animaux d'origine confondue viennent boire au même endroit. Et c'est un peu nous, ou j'espère.
Alors je vois effectivement qu'il y a sur ce mur de photos que vous avez mis, on voit déodorant solide, on voit donc la porte de poulailler dont on parlait, la recette des pommes feuilletées, on voit aussi comment transformer des sachets de thé en petits nuages. Effectivement, c'est hyper varié, tout le monde peut s'y retrouver.
Ouais, on a vraiment beaucoup beaucoup de gens qui viennent poster des choses. On a des enfants qui viennent poster comment ils ont fait un super doudou avec leur maman. Il y a des personnes âgées qui viennent expliquer comment on a fait un poulailler automatique, un poulailler 2.0, et il y a des abat-jours en crépon comme des trucs super compliqués.
Stéphane, ça fait 2 ans que c'est lancé, c'est ça?
Ouais,
et
exactement.
Comment vous envisagez la suite?
Plus de tutoriels et plus de makers surtout. C'est plus intéressant d'avoir des gens qui sont acteurs. Après, moi je suis déjà un petit peu en je suis déjà très satisfait de tout ce qui se passe là. On a beaucoup de gens, c'est croissant. Et on a un site qui n'a pas de publicité, où on ne paye pas pour voir, on ne paye pas pour mettre. C'est un peu un Éden, quoi. Moi, je trouve ça cool.
Et comment vous en vivez alors ?
On a plein de grandes marques qui veulent faire des partenariats et qui veulent redorer leur blason un petit peu, animer leur changer d'image et puis alimenter leur commerce en utilisant un petit peu le fait que on peut pas tout recréer soi-même. À un moment, il faut aller acheter des clous. À un moment, c'est sympa d'aller faire des petits glaçons chez Nature et des Découvertes avec des fleurs dedans, avec la personne qui a eu l'idée, etc. Dans des cadres sympas.
Donc c'est les partenariats sur lesquels vous misez
essentiellement, ouais. Et du coup, ça nous permet d'avoir une communauté protégée qui a une plateforme qui a été essentiellement développée par leur biais. C'est-à-dire qu'on reçoit plein de mails de « ce serait bien si, ce serait mieux si, ce truc-là, c'est pas bien ». Donc on a vraiment modulé notre plateforme sur les gens qui l'utilisent.
Stéphane, je sens que toi, ça te tient à cœur aussi ce côté franco-français, petit cocorico.
Surtout sur le numérique, on est très très fort. On fait partie des 10 leaders mondiaux sur plein de choses, sur tous les axes principaux. Et sur le numérique, on est 27e, un truc comme ça. C'est pas la honte, mais c'est la loose, quoi. Complètement, c'est la loose. Voyez, si vous vous retournez là, vous verrez un monsieur avec un tour de cou orange. C'est monsieur Sadirac, qui est directeur de l'école 42. Avec son école, il a injecté dans le marché plein de développeurs français qu'il a pris avec un vrai côté populaire. Vous savez, l'école qui permet de rentrer, de sortir comme on veut, sans prérequis, sans rien, ça va réinsuffler dans toutes des startups qui sont présentées ici. Plein de jeunes qui ont la niaque, qui ont le talent, qui ont des envies de faire des trucs ici, quoi. On n'est pas à Pétao. On a un trou énorme à remplir.
Donc le salon Cher Paris, il était temps qu'il arrive finalement.
Complètement. Il va falloir que ça se démultiplie, en fait. Je pense même que c'est beaucoup trop global, là, Cher Paris. Il faut refaire des sous-familles et en faire plus tout au long de l'année, en fait.
Mais c'est vrai que pour le grand public, qui est peut-être pas sensibilisé,
tout le monde à qui j'en ai parlé avant disait Cher Paris. C'est quoi ? C'est un truc sur les loyers ? Personne ne sait ce que c'est. Là, il faut qu'il y ait des premières vidéos, les premières photos, les premières interventions qui vont être relayées sur le réseau pour que le grand public en prenne connaissance, quoi.
Ce vendredi, beaucoup d'enfants sont venus accompagnés par leur maîtresse et certains apprennent même à coder, apprennent le langage informatique avec Simplon, l'école de Paris 20e.
On fait un jeu, on va dire, où en fait on dit à un personnage qu'est-ce qu'il faut faire, et ce personnage va le faire, et ensuite il
est sous nos ordres, en fait. Par exemple, on dit avancer plus, après peut-être qu'on peut lui dire, ça dépend des niveaux, on peut lui dire tourner à droite, tourner à gauche, tondre le mouton. En fait, il faut arriver à un but, à détruire l'arbre ou à tondre le mouton, à toucher le mouton, à plein de choses.
Arthur, vous qui travaillez chez Simplon, c'est vous qui êtes à l'initiative aujourd'hui de ces initiations au code. Quel est l'objectif ?
Donc là, l'objectif, en fait, c'est de faire une initiation à la programmation pour des jeunes, pour leur donner en fait un peu envie de se lancer, créer des appétences en fait au métier technique du numérique.
Mais c'est fou, à 10 ans, on peut déjà donner des ordres, savoir programmer.
Ouais, c'est exactement ça, en fait. C'est de la programmation qu'on appelle par bloc. Donc c'est très ludique et ils ne manipulent pas des vraies lignes de code. Là, le but, c'est qu'ils comprennent les bases et la logique, en fait, de la programmation.
C'est à travers un petit jeu, vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors là, en fait, c'est un jeu qui s'appelle Minecraft. Donc comme j'ai dit, c'est la programmation par bloc. On va demander à un petit personnage de faire des actions. Donc... ça va être par exemple construire une maison, donc on va lui dire faut que tu avances de une case, que tu tournes à droite, que tu mettes une planche. Et donc c'est très successif, il y a 14 niveaux, et plus le niveau avance, plus ça devient compliqué.
En quoi est-ce que des petits jeux ludiques comme ça peuvent leur donner envie de programmer et d'aller plus loin ?
En fait, souvent la programmation, on se dit que c'est quelque chose de très compliqué, que ça fait peur parce qu'on ne connaît pas comment ça fonctionne vraiment. Et là, l'idée, c'est de faire vraiment quelque chose de très ludique et de un peu démystifier la programmation, de la rendre accessible à tous.
Là, il y a certaines mamans qui disaient qu'ils avaient déjà des enfants accros. C'est fou ?
Ouais, on se prend très vite au jeu en fait. Même moi à la base, je connaissais pas bien. Et en fait, quand on s'y met, on a envie d'aller au niveau d'après. Et petit à petit, on se prend vite au jeu.
Et est-ce que c'est un enseignement qui va arriver à aller dans les écoles aussi?
Alors là, dès la primaire, c'est censé être arrivé, mais c'est pas encore obligatoire. Et à partir du collège maintenant, de la 6e et de la 5e, ça devient obligatoire. Et au brevet, il y aura une épreuve sur de la programmation et de l'algorithmie.
Eh bien, vaste programme. Et comment ça se fait que l'école Saint-Plon a décidé de participer à ce salon Cher Paris et d'organiser ça?
Alors nous, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse avoir un accès à ce genre de formation, enfin d'initiation. Maintenant, l'initiation, il y a pas mal qui existe pour les enfants, mais c'est souvent très cher et donc c'est pas accessible à tous. Là, le but, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse profiter de ça et puisse connaître ça.
Mais votre école, elle a aussi un profil particulier, il me semble.
Oui, alors notre école, c'est une école qui forme sur 6 à 7 mois, de manière intensive, des personnes éloignées de l'emploi au métier technique du numérique. Et c'est une formation qui est entièrement gratuite, spontanée.
Merci Arthur.
De rien.
Olivier de Guyenneraud, votre credo, vous, c'est Shop and Go. J'ai envie de savoir de quoi on parle, là. Vous allez me vendre quoi, là? Du resto, des bonnes adresses, des bons petits plats, c'est ça?
Alors, on va surtout vous vendre une application qui va vous permettre d'échanger avec vos potes vos meilleurs plans. En fait, on va redonner du sens aux mots amis, confiance et exigence. Vous allez vous retrouver à avoir des adresses que de qualité parce que ce sont vos amis qui vous les présentent. On veut sortir de tous ces sites qui donnent des avis sur tout. La plupart du temps, on se demande même si les avis ne sont pas bidons, si n'ont pas été achetés à la ligne à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, vous allez avoir moins d'adresses, avec moins de conseils sur moins d'adresses, mais de qualité. C'est-à-dire que vous aurez maintenant des conseils, que ce soit pour un dentiste, un pédiatre, ou un restaurant, un bar, une boîte, un musée. Ça sera des amis qui vous le conseilleront. Donc vous aurez les amis qui vont vous conseiller, qui ont la même exigence que vous. Donc vous aurez vraiment que des adresses de qualité. C'est un guide partagé d'adresses de qualité.
Ça reste sur mon cercle à moi, les personnes que moi j'invite, ou ça se greffe sur mon carnet d'adresses?
Tout à fait. En fin de compte, ça se greffe. Vous allez inviter par votre carnet d'adresses, votre carnet de contact, vos amis avec qui vous les partagez. Vous n'êtes pas obligé de partager avec tous vos amis, hein. Vous sélectionnez vos amis avec qui vous partagez. Vous sélectionnez avec ceux qui ont vraiment les mêmes exigences. Ceux que vous avez des amis qui vont être peut-être meilleurs sur des restaurants, d'autres qui vont être meilleurs sur des magasins de fringues, coiffeurs ou ainsi de suite, vous allez partager avec eux ces bons plans. Donc vous saurez avec qui vous partagez et surtout vous savez avec qui vous faites confiance et qui vous ne faites pas confiance.
Et puis l'idée après, c'est si je pars en week-end à Bordeaux, je regarde et puis je vois où ma copine a déjà mangé, c'était sympa.
Exactement, si vous avez des potes qui sont partis effectivement à l'étranger, alors là ça marche pas mal pour les étudiants qui vont à l'étranger faire des semestres à l'étranger, vous téléchargez l'application. Si vous avez des potes qui étaient déjà passés avant vous au semestre, et vous récupérez toutes leurs adresses, tous leurs bons plans, et vous n'avez pas besoin de galérer pendant un mois ou deux mois pour trouver des bons restos abordables, pas chers, de qualité que vous pourrez fréquenter. Vous avez déjà vos potes qui vont déjà sélectionner pour vous. Vous échangez, encore une fois de plus, que des adresses de qualité avec vos potes.
Ça fait combien de temps que vous avez lancé Shop & Go?
Ah, ça fait un an et demi qu'on développe l'application. Ça va faire 4 mois maintenant qu'elle est sur Google Store et elle sort sur Apple Store les prochains jours. Peut-être aujourd'hui ou peut-être demain d'ailleurs. L'application, en fin de compte, n'a d'utilité qu'à partir du moment où vous la partagez avec des potes. Alors, c'est pas peine à partager avec 30 000 potes, mais vous partagez avec 2-3 amis et avec ça, vous pouvez échanger vos adresses.
Comment vous voyez l'avenir? Vous l'envisagez comment, Shop & Go, dans 3, 4, 10 ans?
Oh là là, je serais trop vieux. Mais... Dans 10 ans, non. Dans 10 ans, je pense que... Ouais, je pense qu'on peut arriver. Nous, notre objectif, c'est de lutter contre TripAdvisor, c'est prendre la place de TripAdvisor. Nous, on considère qu'ils sont pas bons parce que, d'abord, ils donnent des conseils souvent bidons qui sont achetés par la concurrence pour détruire une adresse, une bonne adresse, ou au contraire pour faire grossir une mauvaise adresse pour la faire croire qu'elle est bonne. Donc, nous, on veut lutter contre ces gens-là. Nous, on veut, en fait, contre moins de conseils sur moins d'avis, sur moins d'adresses, mais des vrais, vrais avis et surtout sur des gens avec qui on a tout à fait confiance.
Est-ce qu'il y a un côté payant sur Shop & Go?
Non, pour les particuliers, c'est entièrement gratuit. ils téléchargent l'application, ils mettent leurs adresses qu'ils veulent et c'est tout à fait gratuit. Il y a aussi un chatbot sur Chap & Go qui permet à ces gens-là de, bah, d'aller, si vous partez à Venise demain, à Venise, en week-end à Venise, vous n'avez pas d'adresse sur Venise, et bah, vous demandez au chatbot des adresses sur Venise et lui, par rapport à ce que vous avez entré dans votre guide, il va arriver à savoir à peu près ce que vous aimez et il vous proposera des adresses sur Venise qui pourraient correspondre à vos goûts.
Il faudrait peut-être clarifier chatbot pour ceux qui...
Alors chatbot, c'est l'intelligence artificielle, ce sont des petits robots qui, en fin de compte, vous répondent à votre place comme si vous étiez un humain. Donc il parle avec vous, il peut même vous proposer des bons plans que vous pourriez, que vous seriez censé aimer. Il arrive à vous cibler, il arrive à savoir qu'est-ce que vous aimez par rapport à tout ce que vous postez. Il arrive à vous trouver, à trouver vos goûts et à vous proposer des choses. Vous pouvez communiquer avec lui.
Vous disiez que pour les particuliers, c'est gratuit. Est-ce qu'il y a un côté payant qui existe alors pour d'autres ?
Alors, pas encore. On n'a pas encore développé le côté payant, mais ça va être plus tard. Ça sera les annonceurs qui pourront venir communiquer sur le site en sachant que ça ne sera pas autorisé à tout le monde. C'est-à-dire que pas n'importe qui pourra annoncer sur l'application. Ne pourront communiquer sur l'application que ceux qui ont été déjà partagés par la communauté Chap & Go. C'est-à-dire que un restaurant qui est partagé par une dizaine de personnes dans 10 communautés différentes, on pourra considérer que c'est une adresse que les particuliers aiment, donc eux pourront communiquer sur le site. Une personne qui n'a jamais, un restaurant qui n'a jamais communiqué par exemple sur le site, ou que personne n'a jamais changé, je ne sais pas, un RS bidon qui est vraiment néfaste, et ben lui ne pourra pas communiquer. Même s'il veut venir communiquer chez nous, il ne pourra pas communiquer.
Vous allez créer des petits autocollants à mettre sur les restos ?
Exactement, on va créer un label qui va s'appeler Chap Advice. Donc lui, un restaurant qui sera justement à une bonne adresse, qui est vraiment relayé par beaucoup de chappeurs, il aura son autocollant et il pourra communiquer sur le site.
Et d'où vient ce nom Chap & Go ?
Alors Chap, ça veut dire, c'est une vieille expression anglaise qui veut dire vieux pote, c'est un peu les vieux copains de chambre dans les pensions, et c'était des Chaps, c'était vraiment les Chaps, c'est les vieux potes. And Go, bah j'y vais, donc Chap & Go. Vu que c'est des potes qui me le proposent, je peux y aller, je peux faire confiance, je peux y aller les yeux fermés.
Eh bien, merci Olivier de Guyarot. Je rappelle que donc Chap & Go disponible sur
Android, Apple Store.
Merci.
Merci.
Moi, je suis Régine Michalon. Je suis la fondatrice de Made in Share, qui a été créée en mai 2016. Donc, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Et l'idée, effectivement, c'est de faire la promotion des plateformes de l'économie de partage à travers différents leviers. Donc, le levier principal, ça va être l'annuaire, le comparateur de plateformes. Là, on va référencer pour le moment plus de 200 sites d'acteurs de l'économie de partage à travers une vingtaine de catégories. Donc ça peut aller la restauration, au transport, au tourisme, à l'hébergement, etc. Et aussi, on a le levier média avec un magazine webzine sur le net où là, on va faire de l'actu, des articles, des infographies, des vidéos un peu ludique, un peu didactique, un peu axé vraiment au grand public pour faire découvrir aux gens tous les bons plans qui existent.
Concrètement, si j'ai envie pour les prochaines vacances de faire de l'échange de maisons et que je ne sais pas vers quel site me tourner, en fait, si je viens chez vous, vous allez tous me les présenter.
Exactement, il faut venir chez nous, il faut arriver sur la page d'accueil, il y a l'onglet annuaire et tout simplement dans la catégorie hébergement, vous allez retrouver toutes les plateformes de l'hébergement, de l'échange de maisons qui vous permettent d'aller chez le particulier, de changer votre logement, votre appartement, votre maison. Là, vous allez tous les retrouver. Après, vous avez une présentation des plateformes qui sont faites. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez les comparer pour voir quelle plateforme vous voulez choisir qui correspond le mieux à vos attentes, en fait.
Alors, est-ce qu'on peut citer quelques grandes plateformes ? Je pense par exemple à BlaBlaCar. Est-ce que même ces grands noms-là sont référencés et travaillent avec vous ?
Oui, bien sûr, ils sont référencés. Effectivement, c'est des incontournables. BlaBlaCar, Airbnb, Le Bon Coin, on va les trouver. Mais on va aussi trouver les concurrents qu'on connaît un peu moins et qui seront peut-être aussi intéressants de découvrir parce qu'ils ont des spécificités, des spécialités différentes. Peut-être qu'ils prennent moins de commissions, peut-être qu'ils sont plus axés. Par exemple, je pense à BlaBlaCar, il y a un covoiturage vraiment axé sur les co-riders, ça s'appelle, où là c'est pour aller ensemble covoiturer vers des sports de glisse. Donc c'est des passionnés de glisse qui vont ensemble faire du surf ou autre.
Alors Made in Share, l'annuaire qui regroupe toutes ces plateformes, vous le destinez à qui ?
On le destine à tous les particuliers qui veulent consommer différemment, à tous les curieux, à tous ceux qui ont envie d'arrondir le fin de mois, de trop découvrir des bons plans pour consommer autrement, consommer malin, tous ceux qui ont envie de peut-être faire des économies. Tous ces gens-là, voilà, sont les gens qui sont la cible et qui peuvent être intéressés par ces nouvelles formes d'échange, nouvelles formes de consommation.
Merci à vous, Régine Michalon de Made in Share, et le site c'est madeinshare.com. Merci. Et maintenant, je suis sur le stand du réseau des boîtes à partage avec Soumicha Champavert, qui va nous en parler, nous présenter ce réseau. Et je suis aussi avec Pascal Girard de skilltroc.com. Alors, eh ben Pascal, on va commencer ensemble. Qu'est-ce que c'est Skilltroc ? Toutes les deux, je vous ai réunis parce qu'il y a une notion de troc, d'échange entre particuliers. Vous, comment ça se passe ?
Donc Skilltroc, c'est une plateforme d'échange de savoir-faire, donc qui s'adresse effectivement aux particuliers, mais aussi aux professionnels et aux salariés. Et donc le principe, c'est de partager son savoir, son talent, à travers des ateliers ou des tutoriels, pour pouvoir se former à son tour gratuitement en échange.
Il y a un système de points pour avoir accès à un cours ou pour en donner un ?
Alors oui, on a une monnaie collaborative qui s'appelle l'étoile. Et en fait, pour chaque atelier animé, on gagne des étoiles. Quand on partage des tutoriels, si les tutoriels sont likés, on gagne aussi des étoiles. Et avec ces étoiles, on peut se former. 5 étoiles, c'est un atelier.
Et vous, Soumicha Champavert, avec le réseau des boîtes à partage, on est dans un autre type de partage qui est là, j'allais dire 100% réel, avec des objets du quotidien. Comment ça se passe ?
Ben déjà, une boîte à partage, c'est un terme qui englobe tout un tas de boîtes. Ça peut être une boîte à livres, ce qu'on rencontre assez souvent, une boîte à dons où on met tous les objets qui peuvent rentrer dedans, où il y a même des grainothèques, où il y a des gens qui échangent des graines diverses et variées avec d'autres personnes. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les gens à monter une boîte près de chez eux. Ça, c'est la partie la plus importante. On a accompagné plus d'une centaine de personnes aujourd'hui pour monter une boîte près de chez eux, parce que c'est important que ce soit les gens qui le fassent, que ce soit une initiative de quartier et une initiative personnelle. Il ne faut pas faire ça. Par exemple, nous, on est sur Lyon. Et s'il y a quelqu'un de Paris qui nous contacte pour ça, c'est pas nous qui allons monter une boîte à Paris. Il faut que ce soit une personne de Paris, une personne qui fasse ça dans son quartier. Et donc nous, on l'aide à faire ça.
Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Vous donnez des tutoriels ? Vous expliquez ? Vous faites un coaching ?
On fait plutôt un coaching. Donc c'est un accompagnement gratuit. On prend rendez-vous avec nous. Il y a un premier rendez-vous qui dure 1h30 où on explique les bases. Le principe des boîtes à partage, tout l'esprit qu'il y a derrière et en gros tout ce qu'il faudra faire pour monter une boîte près de chez soi, parce que c'est pas simplement poser un truc en bas de la rue et puis on l'abandonne. C'est pas comme ça que ça marche. Donc on a un accompagnement qui dure d'abord 1h30 et ensuite il y a des rendez-vous réguliers. C'est à la demande. S'il y a pas besoin d'en avoir plus, ben on va pas vous courir après si votre projet avance de lui-même. Et s'il n'avance pas, on est toujours là pour vous conseiller, il n'y a pas de problème.
Alors vous disiez que ce n'est pas une boîte qu'on pose dans un coin ou que ça ne se fait pas comme ça, il y a toute une démarche avant et après. Quel type de problématique on peut rencontrer ?
Bah pour une boîte qui est posée dans un lieu public, il faut forcément une autorisation. Ça s'appelle une OTEP et cette autorisation, en général, si on est par exemple une personne toute seule là, qui veut monter son projet, on ne l'aura pas comme ça. On va frapper à la porte de la mairie et puis... elle va se fermer. Et là, ben, ce sera un peu trop tard. Il vaut mieux prévoir avant, réunir des gens autour de ce projet, le construire, avoir un dossier solide et ensuite poser la boîte avec le soutien de la mairie, avec le soutien d'autres citoyens, voire même de MJC, de centres sociaux, voire même d'entreprises éventuellement, comme certaines librairies parfois sont associées au projet de boîte et vont fournir des livres régulièrement. Il y a souvent des stocks en trop. C'est ce qui s'est fait à Lyon dans le premier, c'est la mairie qui a monté les boîtes en collaboration avec les librairies.
Ah, c'est intéressant. Et il y a un suivi aussi qui est important pour pas non plus que ça vienne un dépotoir.
Alors oui et non. Il y a un suivi, c'est-à-dire qu'il faut que les gens se sentent concernés par ces boîtes. Mais il ne faut pas qu'il y ait une personne attitrée qui s'occupe de cette boîte, parce que sinon, elle va être abandonnée. Les autres personnes vont dire « Oh, bah, c'est bon, y a quelqu'un qui s'en occupe, je peux poser mes encombrants à côté. » Ils vont être gérés. C'est pas comme ça. Il faut que les gens se sentent responsables de la boîte, que le quartier se sente responsable de la boîte pour qu'elle fonctionne d'elle-même.
Alors, toutes les deux, vous mettiez en avant cette notion de partage, cette notion de communauté. Est-ce que vous avez l'impression que on est comme à un moment clé dans notre société, dans la transformation, et qu'on va vers plus... là, ça fait un peu bisounours quand j'en parle, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on va vers ça ? Je vous vois acquiescer, Pascal.
Je pense que oui, puisque y a d'abord eu cet engouement autour de l'économie collaborative, qui est toujours là. Mais je pense qu'on a passé un peu le stade de se limiter finalement... aux économies, aux bonnes affaires, bien sûr, c'est toujours là, c'est toujours une des préoccupations, mais au-delà de ça, il y a quand même cette envie de créer du lien qu'on retrouve. On voit pas mal de centres-villes qui se vident, on est face à des commerçants qui se retrouvent un petit peu seuls, des commerces qui ferment, donc je pense qu'il y a une vraie problématique de lien social. Et donc, c'est important que toutes les plateformes puissent participer à leur façon à recréer ce lien.
Sur Skilltrock, vous disiez qu'on peut échanger des compétences. Ça se fait aussi bien virtuellement que dans la vraie vie.
Alors oui, ça peut se faire dans la vraie vie, puisque c'est toujours plus simple aussi d'avoir des ateliers à proximité, mais aussi à distance, puisqu'on pense que le savoir n'a pas de frontières. Le but, c'est pas qu'il y ait par exemple que des Français qui échangent entre eux, c'est que des Français échangent avec des Belges et vice-versa, ou avec d'autres personnes d'autres pays. Et à travers des ateliers online, donc en visioconférence, c'est tout à fait possible.
J'aimerais bien que vous nous donniez quelques exemples pour nous mettre l'eau à la bouche. Bon, on a parlé des éclairs, c'était le cas, mais il y a peut-être d'autres.
D'autres exemples, par exemple, on a Dorothy Hodgers, qui est une consultante, une coach, qui anime des ateliers de poésie, des ateliers d'art-thérapie, de collage, de thérapie par le collage. Et son dernier atelier, elle avait une participante en Allemagne, son atelier avait lieu en Belgique et une participante en France. Donc voilà, c'est ça aussi l'échange. Pas de frontières.
Bon, mais je vais vous remercier toutes les deux, Pascal Girard de skilltrock.com et Soumicha Champavert pour le réseau des boîtes à partage. Et vous pouvez retrouver plus d'infos sur boiteaupluriel@partage.fr. Voilà, c'est la fin de cette émission réalisée lors du premier Salon Cher Paris. Vous pourrez la réécouter mercredi et vendredi à 16h, puis elle sera disponible en podcast sur le site www.artdistrict-radio.com. C'était Julie Boucher et je vous donne rendez-vous le mois prochain.
C'était l'émission Graines d'avenir sur Art District, présentée par Julie Boucher, à retrouver tous les premiers lundis du mois à 16h.